sir.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de 10 séries. C'est vrai, je le reconnais, la procrastination... j'ai dit du premier coup, je suis fier de moi. Eh bien, elle a un peu joué ici ces derniers temps au moment des fêtes pour vous proposer ce deuxième épisode de 10 séries. On va vous parler d'une série avec un invité exceptionnel, Rico du site Nanarland, qui est un spécialiste outre des nanars mais également du cinéma, et dont Father Ted est la série préférée du monde entier. Il va vous le dire dans quelques instants. J'ai été vraiment très très honoré de le recevoir pour ce deuxième épisode. C'est une série anglaise qui a marqué son époque dans les années 90, qui compte 3 saisons et qui malheureusement a dû se terminer suite à une crise cardiaque et au décès de l'acteur principal. Nous y reviendrons également dans l'interview qui suivra dans quelques instants. Je suis ravi de vous retrouver, c'est Nico avec vous, bienvenue dans ce deuxième épisode de 10 séries. Rico et Nico sont dans un podcast, ils ne vont pas tomber à l'eau puisqu'ils vont vous parler de cette série Father Ted. Bonjour Rico.
Eh ben salut Nico, content de te rejoindre pour parler de ma série préférée. Je crois que c'est véritablement ma série de cœur, ma série préférée, Father Ted.
Tu n'es pas le seul à la préférer parce que des millions d'Anglais et d'Irlandais l'adorent cette série.
Ouais, alors
ça a été vraiment un phénomène. Hein.
Bah c'est un peu en France c'est un petit secret en fait parce que il y a peu de gens qui connaissent Father Ted parce qu'elle est passée très confidentiellement sur Canal Jimmy, elle a pas eu une grosse diffusion. Mais curieusement à chaque fois que j'évoque Father Ted, il y a toujours quelqu'un pour dire oh ouais Father Ted c'était excellent. Et je crois que il y a peu de gens qui n'aiment pas la série et vraiment les gens qui ont découvert la série ont tous un petit attachement. Et particulièrement chez nous en France, où je pense que ça doit être un peu la même chose en Belgique, je sais pas comment ça a été diffusé, mais je pense que ça fait un petit peu ces joyaux secrets, ces petits trésors cachés que voilà que on est quelques-uns à connaître et à apprécier particulièrement.
Ouais, chez nous c'était sur Canal Plus Belgique qui avait je dirais des accords à un moment donné avec Jimmy, comme j'avais dit dans la première émission. Et c'est vrai que je l'ai découvert aussi là-dessus. Il y avait aussi toute un certain moment une hype de la série humoristique anglaise.
Ouais.
Il y avait aussi notamment Bottom,
ouais,
qui avait émergé à cette époque-là, un truc complètement fou. C'était Dumb and Dumber, mais version les potards à fond.
Ouais.
Et donc on était dans ce rythme-là des séries anglaises. À la suite, forcément, effectivement, du grand boom des années 70 avec les Monty Python qui avaient quand même mis la barre déjà très haut à l'époque, et puis ces séries là qui ont pu vivre, parce que on retrouve quand même cet esprit là je trouve, après avoir revu la série ici dernièrement pour préparer l'émission, on retrouve quand même cet esprit Monty Python, forcément très anglais même si ça se passe en Irlande. C'est clair qu'on sait tout de suite où on est, quoi.
Ouais. Bah, en fait, ça s'inscrit dans une double tradition de l'humour anglais. Il y a le côté absurde, qui se retrouve d'ailleurs dans l'humour belge pas mal. Ce côté très monde un peu fou, avec des gens qui ont leurs obsessions, qui vont partir sur des délires sur pas grand-chose, et qui... c'est une espèce de monde parallèle un peu décalé, un peu absurde, Et puis une tradition aussi de personnages qui s'enferrent dans leurs propres bêtises, dans leurs propres conneries. C'est Fawlty Towers, par exemple, c'est John Cleese dans Fawlty Towers, quoi, qui va se mettre lui-même dans les ennuis à force de vouloir trop en faire, à force aussi d'être la tête près du bonnet et de vouloir absolument que ça se passe comme lui il a prévu. Et ça sera un des grands ressorts comiques aussi de Father Ted, qui veut toujours que tout se déroule au mieux pour ses propres rêves de gloire, ses propres rêves de, on va dire, de célébrité.
De célébrité, d'argent.
Et à chaque fois, il s'enferme dans ses propres mensonges, dans ses propres contradictions. Il va rajouter bêtise sur bêtise, mais toujours avec l'intention d'essayer de passer la précédente, d'enrober le tout, et ça lui retombe toujours systématiquement dessus. Et ils ont aussi des comédiens comiques qui n'hésitent pas à jouer un peu avec un comique physique, à pousser très très loin la caricature, et même de se physiquement un peu de porter des prothèses ou de se déformer un peu physiquement pour accentuer les personnages vraiment plus grands que nature. Et c'est cette double tradition qu'on retrouve là. Qu'on trouve aussi dans une série que j'aime bien, qui m'a fait en fait découvrir accidentellement Father Ted, c'est Absolutely Fabulous, qui était une série avec Jennifer Saunders et Jenna Lumley, sur le dans le monde de la mode, deux atypiques complètement déjantés et alcooliques. Et en fait, c'était la série qui était diffusée sur Canal Jimmy que je regardais, et quand la série s'est arrêtée, qu'ils étaient au bout des épisodes, ils ont proposé, Alain Carazé a proposé une nouvelle série, et cette nouvelle série, en fait, c'était Father Ted. Et donc j'ai suivi.
Ah ouais.
dans mon souvenir, c'était, je regardais Absolutely Fabulous, et ils nous ont dit, si vous aimez Absolutely Fabulous, on a un autre petit truc, on a une divine surprise, un petit bonbon. Et puis c'était les premières saisons de Father Ted. Donc voilà, c'est arrivé chez nous.
C'est intéressant, c'est les deux. C'est un peu antinomique, quoi. L'aspect glamour d'Absolutely et le contraire avec Father Ted.
Ouais, mais en même temps, les personnages se répondent. C'est les personnages qui sont dans leur obsession, qui sont persuadés, d'être au top de ce qu'ils font, et en même temps, qui sont complètement déphasés dans un monde où tout est absurde, en fait. Parce que si on prend quand même les personnages d'Absolutely Fabulous, notamment tous les personnages qui sont autour et qui gravitent dans l'unité, c'est tous des gentils idiots ou des gens complètement obsessifs, excentriques. Et finalement, quand on prend Craggy Island, la petite île sur laquelle vivent nos prêtres de Father Ted, c'est exactement le même genre de zinzin, mais en un peu plus méchant, en un peu plus en un peu plus que bizarroïde.
Ouais, et moi j'ai vraiment fait aussi un parallèle, je trouve. Tu vas voir où je veux en revenir. J'ai trouvé aussi à un moment donné qu'on est un peu dans un village des Schtroumpfs. Mmh. En tout cas, dans une sorte de d'univers où chaque prêtre a sa propre caractéristique, sa propre passion. T'as le prêtre danseur, t'as forcément le prêtre alcoolo avec Jack. Mais il y a chaque fois dans tous ces prêtres, et même dans les évêques. Chaque fois une caractérisation un peu différente qui m'a un peu fait penser au village des Schtroumpfs. Je sais que je vais un peu loin dans l'imagination, mais je trouve que c'est ça la folie aussi de cette série, c'est que ils ont peur de rien, quoi.
Non, puis ils partent sur des délires vraiment complètement dingues. Enfin, t'as Father Ted qui va faire l'Eurovision à un moment, il y a une compétition du plus beau mouton de l'île qui se transforme en quasiment en film de serial killer et de loup-garou, avec un monstre sur l'île qui s'attaquerait au mouton, et donc il faut regonfler le moral des moutons avant la grande compétition. Donc il y a des scènes complètement folles, et c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est un monde aussi, ce qui fait, je pense, le charme de Father Ted, c'est son côté très irlandais, et le fait, en fait, que c'est une espèce de petit monde à la fois absurde, mais logique dans son absurde, et en même temps, dans lequel on peut se retrouver. Enfin, si on a vécu un peu à la campagne, moi j'ai vécu une partie de ma jeunesse dans la Bretagne campagnarde, il y avait des similitudes quand même hein, dans la, va dire, dans, ouais. dans la façon dont fonctionnait un petit village breton. Et donc il y a ce côté en plus très très terre à terre de ce petit village un peu miteux, un peu minable, où quand c'est une fête foraine, bah en fait il y a juste une espèce de
tout est mécanique,
tout est mécanique. Il y a une espèce de tourniquet, de pauvre tourniquet avec deux personnes qui tournent dessus et puis c'est la grande attraction. Enfin c'est une... En plus, ça suinte le pathétique de tous les côtés, quoi. On a vraiment l'impression, ouais. par moment, il y a un petit côté Groland parfois. Je sais pas si vous connaissez Groland en Belgique, qui est...
Oui, bien sûr. Oui,
et il y a un petit côté, voilà. C'est ce petit monde un peu miteux, un peu minable, mais qui se rêve plus grand qu'il n'est, et en même temps qui est aussi un monde où tout le monde doit tenir un peu sa place, son apparence, puisque ce sont quand même des prêtres, et donc il faut qu'ils réagissent un peu comme des prêtres et comme des curés oui. normaux dans un monde un peu fou, alors qu'ils sont eux-mêmes cintrés. Quand on se pense que
complètement
peut-être c'est le plus saint d'esprit finalement de toute la maison,
c'est ça, oui.
alors qu'il traîne déjà lui un bon paquet de casseroles, voilà, on est quand même avec des personnages qui sont vraiment très très drôles.
Ouais, et je trouve qu'une des forces de la série aussi, c'est que il se moque d'un milieu où on se dit c'est un peu compliqué de se moquer, mais n'allant pas non plus dans des sujets touchy de la religion, quoi.
Oui.
Ils ont vraiment créé on se moque des personnages et effectivement peut-être de leurs quelques petites déviances, mais c'est vrai que ça ne dénonce pas non plus. Certains trouveront peut-être ça dommage ou pas, mais en tout cas ça ne va pas non plus très loin dans la dénonciation de la religion. C'est vraiment mettre des personnages comme ça dans un contexte et d'y aller à fond et de s'amuser aussi en fait finalement. Et ça ne se moque pas spécialement de la religion, je trouve.
Oui, c'est un décor
que j'apprécie plutôt en fait.
Oui, c'est-à-dire que ce sont des prêtres. Mais en fait, c'est une vision en fait d'un monde où il y aurait que des prêtres et des bonnes sœurs quasiment, et puis autour quelques paroissiens mais qui sont très secondaires, qui essaieraient de vivre une vie normale avec leur propre il y a tout ce décorum de prêtrise, des prêtres, de la gouvernante de la maison, des bonnes sœurs qui viennent, mais finalement c'est des gens normaux. Avec leur petite passion, avec leur petite jalousie, leur petite mesquinerie, les prêtres de deux îles, de Rugged Island et de Craggy Island qui se tirent la bourre et qui se font des petites crasses. Mais ça pourrait être n'importe qui en fait. Alors il y a quelques taquets quand même de temps en temps, avec notamment le personnage de l'évêque Brennan qui est qui est quand même montré comme un type qui a une femme et des enfants illégitimes, qui vit dans le luxe et qui se comporte un peu comme
une maîtresse comme il veut,
comme un dictateur en tant qu'évêque sur ses pauvres sur les pauvres prêtres dont il a le contrôle, mais en même temps il pourrait ne pas être prêtre. Bon, ça enlèverait quand même tout un décorum qui fait aussi le charme de la série, mais
oui.
Ce sont des Irlandais de base, avec tous les problèmes d'Irlandais qui vivent sur des petites îles. Voilà. Pour les gens qui ont vu, par exemple, si vous n'avez jamais vu Father Ted, imaginez les Banshees d'Inisherin, si vous avez vu le film Les Banshees d'Inisherin,
oui.
mais en comique avec des prêtres. C'est ça. C'est exactement le même genre de réaction. Quand j'ai vu Les Banshees d'Inisherin, je me suis dit, mais ça aurait pu être un spin-off de Father Ted en un peu plus tragique. Parce que c'est vraiment le même type de personnage obsessif, de personnages qui sont là en train de se prendre la tête pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, dans un décor aussi, qui est cette Irlande rurale un peu paumée, un peu pauvre, avec plein de personnages aussi qui sont un peu têtus, un peu qui abusent de leur pouvoir.
Un peu rustre, ouais.
C'est ça, ouais.
Donc, il y a aussi moi j'aime aussi, comme tu viens de le faire, j'aime bien aussi faire les parallèles, et j'ai aussi beaucoup trouvé des ressemblances avec Léonard notamment, puisque il y a Bob de Groot qui nous a quitté dernièrement, donc c'est la BD Léonard. C'est un peu un peu dans le même esprit, le maître avec le disciple un peu débile,
avec Dougal,
qui bon, ici Léonard invente des choses et y a toutes les conséquences qui arrivent, mais je trouve que aussi dans cet esprit un peu absurde, et notamment il y a un album de Léonard qui est La Guerre des Génies, et qui met face à face Léonard et un autre génie, et ça m'a vraiment aussi fait penser à ça en voyant quelques épisodes de la série, et c'est un petit hommage à Bob de Groot, le scénariste qui nous a quitté il y a quelques semaines, puisque nous sommes en 2023, en novembre 2023, j'ai toujours bien de le dire. Voilà, il y a aussi un peu ça, cette dynamique en tout cas que j'ai retrouvée en voyant les épisodes. C'est vrai que, et aussi, ça c'est quand même aussi assez rare pour le souligner, sauf peut-être dans le sitcom anglo-saxon et encore, mais il y a quand même l'utilisation des extérieurs qui sont très, très réguliers. Alors, et qui apportent un charme à la série.
Alors moi, j'ai une anecdote, j'étais allé voir, moi, les extérieurs quand j'étais en Irlande. C'est-à-dire que j'ai été faire mon petit pèlerinage. Alors, la célèbre maison paroissiale, en fait, c'est une maison privée qu'on n'a pas le droit de visiter. Il y a des panneaux partout. Les gens disent, non, c'est bon. C'est une propriété privée, vous n'avez pas le droit de rentrer, de prendre des photos. Et donc, faut imaginer une espèce de petite maison irlandaise. C'est une grosse maison, mais qu'au milieu d'un champ, au milieu de nulle part, avec un petit muret de pierre devant, un petit portail. Et en fait, ils ont filmé que les extérieurs. Après, tout le reste était tourné en studio, notamment en Angleterre.
Ouais.
Et puis, après, ils ont tourné dans plusieurs lieux. Et en Irlande, en fait, il y a eu de véritables batailles, entre guillemets, pour savoir. Craggy Island, en fait, c'était quelle île ? Parce que c'est censé se passer sur une petite île au large de l'Irlande. Et il y a plein d'îles qui ont revendiqué d'être, en fait, le modèle de Craggy Island. Et quand j'y étais, j'y étais en 2013... le souvenir de Father Ted, qui est une série quand même de la fin des années 90, était encore resté fort. Ouais. Il y avait encore une fête Father Ted chaque année, des décorations un petit peu partout. Et on retrouvait les lieux en fait qui avaient servi pour les extérieurs de certains épisodes, qui sont éparpillés en fait dans plusieurs petites villes de l'ouest de l'Irlande.
Ouais, c'est ça. Et cette fête, en vérifiant, aura encore lieu au mois de mars 2024, entre le 7 et le 10 mars 2024. Donc,
tout le monde arrive déguisé en prêtre ou en bonne sœur et reprennent un petit peu les épisodes les plus fous de la série, quoi.
Ouais, c'est ça, puisqu'ils font des représentations théâtrales. Hein, ça, on le voit aussi en bonus dans le DVD. Des trois saisons, puisque ça, je l'ai dit en présentation, mais il n'y a que trois saisons.
Trois saisons seulement.
Avec ce que j'aime bien aussi dans les séries anglaises, c'est l'épisode de Noël.
Oui, toujours.
Ça, je trouve que c'est quand même aussi une spécificité de Noël qui est toujours un peu plus long. Hein.
Il y a un gag que j'adore justement dans cet épisode de Noël qui illustre en fait toute la folie de Father Ted. C'est que c'est un épisode de Noël et à un moment on sonne à la porte. Et Ted ouvre et il trouve il y a un bébé dans un panier devant la porte. Donc qu'est-ce qu'il y a fait ? En fait, hop, il y a la mère qui arrive. Oh, excusez-moi, j'avais laissé le bébé, qui repart avec le bébé en fait. Et tu te dis ça va être l'épisode. Non, ça va être encore autre chose. Et hop, ça repart sur. C'est une mine d'idées cette série, c'est-à-dire que ça part dans une direction, c'est un petit peu ce que faisaient les Simpsons à la grande époque, c'est-à-dire qu'ils commençaient dans une direction, ils partaient à 90 degrés sur autre chose, et là souvent on commence sur un sujet, on part sur autre chose, et en fait la construction est souvent assez chaotique, mais ils retombent toujours sur leurs pattes, quoi. C'est ça que j'aime bien aussi dans cette série, c'est que c'est vraiment bien écrit, c'est que... La mécanique de construction du gag est vraiment très très réussie.
Écoute, on ne peut que vous conseiller de découvrir ça. C'est un peu compliqué de se le procurer. Enfin, il y a le DVD qui est disponible, les trois saisons qui est disponible sur Amazon en anglais uniquement, mais voilà, quand on regarde avec les sous-titres, c'est assez...
C'est avec les sous-titres. Alors, il existait, Canal Jimmy avait sorti des cassettes vidéo, moi j'avais acheté les cassettes vidéo à l'époque, mais qui s'arrêtent au milieu de la saison 2. En fait, parce que c'est le moment où Canal Jimmy a fait faillite. Enfin, que Canal Jimmy s'est cessé. Et ils avaient sorti Absolutely Fabulous en cassette vidéo à l'époque, hein, c'était la fin des années 90. Et ils ont commencé à sortir, en fait, la première saison et la moitié de la deuxième saison. Et en fait, Canal Jimmy s'est arrêté avant de faire la deuxième saison, et la troisième n'était pas encore arrivée en France, et arrivait après. Et donc, il existe des cassettes vidéo de la première et de la deuxième, la moitié de la deuxième saison, que je possède assez précieusement, à côté de mon beau coffret que j'ai été acheter en Angleterre de Phasertad, donc... Voilà,
ouais. J'ai vu aussi qu'en France c'était disponible sur Apple TV à l'achat par épisode.
Ah oui.
Mais pour la Belgique ça reste un peu compliqué. Donc moi ce que je vous conseille, c'est si vous voulez venir faire un petit tour à Liège, bah je vous accueille volontiers pour qu'on se fasse des week-ends Phasertad. Il y a que 24 épisodes. Hein.
Ça va
vite malheureusement.
Ça va assez vite. On expliquera sûrement pourquoi tout à l'heure, pourquoi la série aussi s'est arrêtée un peu brutalement, de façon pas totalement prévue, même si ils avaient décidé de terminer quand même la série. Il y a plein de petits détails que j'aime bien, la musique de Phasertad, parce qu'elle est interprétée par un de mes groupes favoris, qui est Divine Comedy, Neil Hannon, qui a fait aussi la musique de la chanson de l'Eurovision, My Lovely Horse. Qui est un clip absolument démentiel de folie furieuse. Si vous voulez comprendre un petit peu l'humour de Phasertad, vous allez sur YouTube et vous tapez Phasertad My Lovely Horse, et vous allez voir, en fait, c'est le clip qu'ils imaginent pour leur chanson. Donc c'est des prêtres qui imaginent faire un clip sur une chanson sur un cheval pour l'Eurovision. Et c'est 1 minute 30 de délire cocaïné, en fait, complètement fou. Et voilà, c'est ça aussi, c'est quelque chose qui fait vraiment le sel.
Avec des sous-entendus, un petit peu aussi.
Un petit peu,
une imagerie un peu gay quand même.
Il y a plein de choses,
sur le cheval comme ça. Ouais, il y a vraiment plein de lectures, en fait, de lectures à faire. C'est vrai que... À la limite, trois saisons, c'est un peu court, mais finalement, ils sont arrêtés en plein succès.
Oui.
Comme je l'ai dit, parce que l'acteur principal est décédé d'une crise cardiaque le lendemain du dernier jour de tournage de la saison 3. Et la série s'est arrêtée.
Alors, ils avaient prévu
pour cette raison-là, essentiellement.
Ils avaient prévu d'arrêter à la saison 3, mais... comme ils font beaucoup en Angleterre, en tout cas en Grande-Bretagne, ils auraient sûrement fait des épisodes spéciaux ponctuellement. Parce que c'est ce qu'ils font souvent sur des séries un peu populaires. Fawlty Towers, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Bottoms, par exemple, ils ont fait beaucoup d'épisodes après coup, en fait.
De spécial.
De spécial. Ouais. Et je pense que, comme ils ne voulaient pas se laisser enfermer dans leur personnage, ils ont arrêté au moment où ça marchait bien et où ça allait. Et puis peut-être revenir une fois de temps en temps, se faire un petit plaisir. Et Absolutely Fabulous a fait ça jusqu'à tirer un peu trop sur la corde, à mon avis. Sur les derniers, ils ne sont pas très très bons. Bottom l'a fait aussi. Vous avez beaucoup de séries justement qui vont faire des épisodes ponctuels, un peu à la Doctor Who, quand ils refont des épisodes. Donc la mort de Dermot Morgan a fait que voilà,
a précipité l'arrêt de la série.
Ouais.
Et finalement, c'est triste, mais ils auraient pu caster un autre acteur, et finalement ils l'ont pas fait. Donc je trouve que c'est assez noble aussi de ne pas d'avoir arrêté.
Ça repose tellement sur les personnages, en fait. C'est ça, quoi. On n'imagine pas Dougal joué par un autre acteur que Ardal O'Hanlon ou Mrs Doyle. On a du mal à imaginer quelqu'un qui puisse reprendre le rôle de Father Jack. Ils sont tellement identifiables parce que c'est une comédie qui repose quand même sur le tempo comique de ces comédiens, qui sont quand même extraordinaires. Parce que Phasertad, c'est vraiment la boule de nerfs au milieu de tout, qui essaie à chaque fois d'essayer à la fois de monter la situation pour paraître au mieux et pour récolter la gloire et la célébrité, et en même temps d'apaiser les choses, les bêtises que va faire Dougal par inconscience, Father Jack par son alcoolisme et par ses espèces
sa libido
bizarre. Et puis il y a cet élect l'électron libre de Mrs. Doyle au milieu, cette gouvernante obsessionnelle, ultra obsessionnelle, qui va de toute façon vous faire boire ses tasses de thé et ses petits sandwichs, que vous le vouliez ou non. Et
Triangle, moi, j'imagine ouais, pas triangle,
d'autres,
ouais. Ouais,
j'imagine pas d'autres acteurs les jouer, quoi. C'est vraiment la...
Mais non.
Je pense pas que ça aurait marché en remplaçant un personnage, aussi bon soit-il, tellement c'est vraiment quelque chose qui fonctionne avec les personnages. C'est très compliqué dans une série de remplacer, en tout cas dans une série qui a déjà plusieurs saisons, de remplacer un rôle central
un
pour le faire à l'identique.
Oui, central, ouais. Ouais. Ouais, les Américains l'ont fait, hein, mais oui. Ça... mon oncle Charlie, Spin City,
ça marche rarement quand même bien.
On a vu, voilà, exactement. Il y a pas vraiment eu de succès par rapport à ça.
Ouais.
Voilà, donc on a, moi, je pense qu'on a fait le tour ensemble de cette série Phaser 7. Donc, d'abord, on aimerait bien que ça soit un peu diffusé sur le streaming un peu plus sur Prime en Angleterre. Je sais que c'est disponible. Mais voilà, il faut que cette série soit vue parce que dès qu'on commence à regarder, eh bien on accroche vraiment. Si t'as peut-être encore quelque chose à rajouter, ouais. Rico, sur la série.
Bah, les deux. Alors sur les séries qu'on suivit, parce que les deux auteurs, Graham Linehan et Arthur Matthews, ont fait pas mal de séries. Graham ouais. Linehan, avant qu'il pète les plombs et qu'il se lance dans une croisade anti-trans complètement délirante et qui se crame, on va dire intellectuellement et en termes de carrière, il a quand même fait une série qui est sympa, mais sans plus, qui s'appelle Black Book, sur un libraire qui déteste ses clients et qui préfère lire et picoler plutôt que de servir ses clients et qui a ses amis bizarres. Et surtout une série que j'aime beaucoup qui est The IT Crowd sur un service informatique une grande boîte assez dingue et qui retrouve un peu cet esprit Phaser Ted d'une folie furieuse de personnages en fait qui sont dans leur monde et cette capacité en fait à créer des personnages obsessionnels ultra sympathiques et en même temps qui sont dans leur monde et qui partent facilement en vrille et voilà c'est aussi un petit peu la continuation de Phaser ce genre Ted, de ouais. Phaser Ted ce serait The IT Crowd je pense qui serait la bonne continuation. Si vous avez Phaser Ted, je pense que vous aimerez IT Crowd, surtout si vous avez un petit vernis informatique parce que c'est un peu plus geek.
Voilà, c'est ça. On parlait quand même, on faisait souvent le rapport que c'était un peu le Big Bang Theory anglais, mais mieux que la version américaine, quoi. Mm. Déjà.
Bah, ils ont essayé de faire un IT Crowd américain. Ils avaient juste gardé Richard Ayoade pour jouer Moss dans la version américaine, mais j'ai vu le pilote, ça marchait pas du tout.
C'est ça.
Voilà, il y avait une voilà. C'est là aussi où les Britanniques sont quand même forts pour la comédie. C'est vraiment leur truc.
Oui.
Plus que la cuisine déjà.
Oui.
Mais
oui, c'est ça aussi. Et puis...
nous on a du mal avec la comédie, mais eux ils ont plus de voilà. Ils sont quand même très très forts pour se moquer d'eux-mêmes.
Ouais, mais oui justement, bah on peut y venir. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que allez. Qu'en France, on a difficile de mettre en place une série comme Phaser Ted ou comme qui marque les esprits comme ça. Forcément, on a.
Oui, vas-y, je te laisse terminer.
Bah non, mais on connaît les nuls, on connaît les inconnus, c'est des sketchs, c'est des humoristes, etc. Mais comme série, bon, il y a H, effectivement, qui a un peu marqué l'époque, mais au niveau humour, on est plus.
Il y aurait Kaamelott, éventuellement. Parce que en fait, je pense que l'humour français repose, enfin quand je dis français, l'humour belge ressemble plus à l'humour britannique. C'est-à-dire que l'humour belge, il se moque de lui-même. La grande force des Britanniques, c'est qu'ils se moquent d'eux-mêmes. Les Belges sont capables de se moquer d'eux-mêmes. En France, on se moque des autres. C'est quand même notre grande force, c'est de se moquer des autres. On est quand même un peu prétentieux. on va pas le cacher. Les séries, en fait, souvent les séries françaises ont plus tendance à se moquer des autres personnages. Que de se moquer des protagonistes par eux-mêmes, même si il peut y c'est avoir ça. Aussi des, on va dire un humour qui se moque de ses propres personnages. Et puis en France,
oui,
Je pense qu'on...
Est-ce qu'on ne pourrait pas faire à Little France comme on fait à Little Britain les Anglais, quoi. C'est ça,
ça serait compliqué.
Suis bien, c'est ça, en fait.
C'est-à-dire que même si on prend, par exemple, une série qui est une série avec des personnages rigolos, etc., comme Kaamelott, avec des personnages dont on peut se moquer, le personnage central, le personnage d'Arthur, qui est quand même le pivot référent, lui sera pas ridicule en lui-même. Les Britanniques vont placer vraiment un personnage ridicule au centre. C'est-à-dire que c'est...
Il y avait une série, je pense qu'il s'appelait aussi Kaamelott, avec Arthur et le Chevalier de la Table Ronde, une version anglaise, mais des années 70-80. Et là aussi, là, c'était quand même assez délirant. Et Arthur ressemblait, si dans mon souvenir, ça il faudra vérifier, une sorte de bénil comme ça, blond avec une coupe au bol.
Ah, ça me dit rien, ça, j'ai pas vu celui-là.
Bah écoute, j'essaierai de retrouver, d'envoyer les infos. Et alors, puisqu'on parle de comédie. Ouais.
Pour moi, il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'en France, on fait beaucoup d'humour sur les dialogues, en fait. C'est les répliques qui vont être drôles. Donc c'est pour ça que souvent, l'humour français est difficilement traduisible dans d'autres langues. C'est qu'on a beaucoup de comédies qui reposent essentiellement sur les dialogues. Les Anglais font davantage de la comédie qui repose sur les situations et sur les attitudes des personnages, ce qui est peut-être plus universel. Alors bien sûr qu'ils font des dialogues qui sont brillants et avec des personnages qui sont capables de balancer des petites vannes, mais souvent je trouve que l'humour anglais repose sur les personnages, mais sur leur comportement plus que sur ce qu'ils disent. Et en France, est davantage sur un humour qui va être un humour de la parole. Donc ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire des choses très drôles. Mais je pense que c'est ce qui fait la plus grande universalité, à mon avis, de l'humour britannique. C'est qu'ils sont capables de se moquer d'eux-mêmes et qu'ils n'hésitent pas à pousser très loin le trait, l'absurde, et qu'ils se reposent sur les situations, qu'ils se reposent sur le jeu des personnages plus que sur les dialogues.
Et le corps aussi, le
corps,
l'utilisation
oui.
du corps, alors, comme ça.
Oui, c'est quelque chose qu'on utilise peu, l'humour corporel, dans les séries françaises. C'est-à-dire, il y en a un petit peu, n'exagérons rien, les séries françaises, il y en a des... Il y a des séries qui arrivent aussi à jouer un petit peu là-dessus. Mais les expressions du visage, la façon dont ils marchent, les gimmicks, ils ont des personnages immédiatement hilarants parce qu'ils poussent toujours le curseur un petit peu trop loin, mais en restant toujours dans le vraisemblable. Enfin, pas dans le vraisemblable, mais en tout cas, on pourrait y croire,
mais c'est un peu fou
quand même. Hein. C'est quand même un peu fou.
C'est ça.
Donc, c'est ça, je pense, qui fait aussi la grande force de l'humour anglais.
Ouais.
Enfin, quand je dis anglais, ici, c'est irlandais. Parce que même si la
série est
anglaise, c'est quand même
irlandais. Mais c'est ce que les auteurs disaient. C'est ce que les auteurs disaient, notamment dans l'interview du coffret. Il dit les Irlandais connaissent beaucoup de choses de l'Angleterre et du Royaume-Uni, du Royaume-Uni, alors que les Anglais ne connaissent pas beaucoup de choses des Irlandais. Et donc, leur idée aussi de cette série-là, c'était un peu d'amener l'Irlande connaître les paysages ou peut-être la manière de vivre, entre guillemets.
Les accents.
Voilà, les accents aussi. Ouais.
Ah, les accents.
Je trouve que ça va encore, finalement, les accents ici, quand même. C'est pas très... Il y en a qui sont qui sont bien prononcés, mais je veux dire, c'est quand même encore audible.
Ouais, c'est pas de l'écossais, quoi.
Voilà. Puis même dans le fin fond de l'Irlande, à mon avis, il y en a quand même que tu dois comprendre. Voilà. Et alors, justement, c'est ça, parce que je vais faire un peu digression dans 10 séries. Puisqu'il y avait un sujet que tu avais abordé, vous aviez abordé dans le dernier podcast de Nanarland, et tant que tu étais là, je voulais en profiter parce que...
Juste que l'argent de Nanarland était juste sur mon compte, le temps de faire le transfert, hein, c'était pas tout censé rester... Ça devait pas.
Non, tout à fait. En fait, quand vous avez parlé des SECPA et des dégâts...
Oui.
Oui,
on a parlé de ça. On parlait de l'humour français.
Voilà. Et tu parlais qu'il y avait une catégorie donc pour les jeunes, en parlant de ces deux films-là, et pour les plus âgés. Et j'avais envie de t'interroger sur, mais qu'est-ce qu'il y a pour nous, alors, pour les allez, 35-55 ans, plus ou moins. C'est quoi l'humour pour toi actuel dans le cinéma français pour notre âge, pour nous comme public?
Alors, un petit peu compliqué parce que...
Moi, j'ai une réponse. Toujours... Hein. Moi, j'ai ma réponse, mais je suis toujours très là-dessus.
Disons que pour moi, je suis toujours très client d'Alain Chabat, par exemple. Pour moi, c'est le daron de l'humour, on va dire, qui est à la fois... C'est un des rares, en fait, qui est capable de faire de l'humour à l'anglaise en France. C'est-à-dire à la fois fin, mais très moqueur, qui n'hésite pas à aller de temps en temps dans les excès, dans la vulgarité. Très référencé, très fin, en fait, dans les références, sans en avoir l'air. C'est-à-dire qu'on va pas t'asséner des grosses références, mais voilà, on sent que derrière il y a quelqu'un qui a lu des livres, qui a un petit peu de bouteille et qui est pas non plus quelqu'un qui va faire juste du gros humour poète. Donc, mm-hmm. Mais voilà, c'est déjà plus générationnel. Bon, j'aime bien.
Et en même temps,
il fait pas du cinéma.
Oui. Pardon.
Alexandre Astier aussi, que j'aime bien, oui. Même si son film Kaamelott est un petit peu raté pour moi, j'aime bien, on va dire, la façon dont il a mené sa série Kaamelott.
La saga,
qu'il en a fait quelque chose, qu'il en a vraiment pris les commandes pour essayer d'aller au-delà de la simple petite pastille rigolote. Après, il peut y avoir des films assez drôles. Il y a des films que j'aime bien, mais c'est vrai que sur ce qui sort à l'heure actuelle, soit on a un humour qui est un peu littéraire, qui est un petit peu référencé littéraire, soit on a de grosses comédies grasses. Moi, ce que j'aime pas avec le genre de comédie un peu à la française, je vais dire à la Dubosc, à la Clavier, c'est que c'est quand même souvent le plus petit dénominateur commun de l'humour, et que c'est souvent on va se moquer des autres, et sous le vernis de se moquer un petit peu des bourgeois, on se moque quand même surtout des prolos et des minorités, même si c'est pas forcément non plus toujours un humour complètement de droite. Après, il y a des choses qui peuvent être très drôles aussi dans l'humour jeune, hein, il y a beaucoup de jeunes humoristes, il y a beaucoup de stand-uppers qui sont très très drôles. Moi je goûte plus ou moins cet humour parce que je suis déjà un peu trop âgé pour avoir tous les codes. Et c'est normal, hein, il y a plein de références que j'ai pas. Dans le Jamel Comedy Club, par exemple, il y a des choses qui m'ont fait rire. Blanche Gardin me fait beaucoup rire, mais ce qui montre que je peux être de droite.
Mais c'est déjà encore une autre génération que...
Mais c'est déjà une autre génération. Même si c'est plus jeune, c'est une autre génération. Mais je peux voir des... Il y a des stand-uppers qui peuvent être, je pense au Comte de Bouderbala par exemple, qui est très drôle et qui peut être très fin. Mais j'ai pas forcément toutes les références, c'est des références jeunes. Mais c'est normal. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il y a un certain nombre de références un petit peu plus anciennes, de choses qui me font marrer. Moi, les Monty Python me font marrer. Est-ce que ça fait marrer encore tous les jeunes à l'heure actuelle? Je ne suis pas certain. C'est-à-dire que c'est un humour qui a aussi correspondu à une époque. Il y a eu un avant et un après. Moi je me marre toujours devant les tontons flingueurs. Est-ce que des jeunes à l'heure actuelle se marreraient devant les tontons flingueurs ou ne nous fâchons pas avec cette
les gendarmes par exemple?
Les gendarmes, c'est à Malville, les gendarmes, hein. Putain, je les ai revus. Ouf, ouais. C'est pas bon, hein. Meilleur de De Funès, hein. Je prends 20 fois un Folie des Grandeurs ou un Rabbi Jacob, mais les gendarmes, c'est vraiment la nostalgie qui fait regarder, quoi. Mais
exactement.
Après.
Mais mon avis, c'est parce que je suis fan aussi, mais je trouve par rapport à ce que fait Fabrice Eboué au cinéma, je trouve que.
Oui, Fabrice Eboué est très bon.
Et notamment avec Barbac.
J'ai beaucoup aimé Barbac.
C'est vraiment. Ça peut être. Nous, son public. enfin notre âge, je veux dire, les je sais pas comment, les on n'est pas des boomers, enfin je sais plus, mais enfin bon,
cette génération Z, pour moi,
voilà,
moi c'était j'ai vu une génération, j'échappe aux boomers, mais génération Z, la génération d'après, quoi.
Voilà.
Bon, c'est la meilleure génération, mais quand même.
C'est, oui, c'est ça, celle qui est la plus cultivée, qui a vécu plus de choses.
Bah, évidemment.
Et puis qui est, voilà, c'est ça. Et puis alors on essaye d'apprendre aux petits jeunes qui veulent pas nous écouter pour le moment, mais qui diront dans 5-6 ans, ah bah oui, papa avait bien raison, hein, voilà. Si ma fille m'écoute, elle gardera ça jusqu'au bout. Mais voilà, c'est vrai que je m'étais fait cette réflexion-là. Quel est l'humour qui peut s'adresser à notre génération, à nous ? Et moi, ben voilà, le premier nom, ben, je trouve que Eric Judor aussi.
Oui, Eric Judor.
Et notamment avec Problemos, qui ouais. est un film qui n'a pas beaucoup marché au niveau du box-office. Mmh. Mais qui je trouve, j'ai l'impression qu'il va laisser une trace quand même dans l'humour français, en tout cas.
Oui, mais ça reste des exceptions dans le paysage dans le paysage. On en a quelques-uns des comme ça, mais après ce sont ce sont des films qui vont peut-être marcher absolument. Moi, je me souviens par exemple d'un film comme Le vélo de Guylain Lambert avec Benoît Poulvorde.
Avec Poulvorde,
qui est un film que j'aime beaucoup, qui date des années 2000, et où je trouve vraiment qu'il y a un véritable travail d'écriture. Là, cette année, il y a un film que j'ai bien aimé qui est Youssef Salem a du succès avec Ramzy, qui était pas mal du tout.
Je l'ai pas vu,
et
que
bien...
je vais voir. Ouais.
Bien ciselé en matière de croquage des personnages, en fait, de ce à la fois de cet écrivain qui revient dans sa famille mais qui a affabulé en fait toute sa vie familiale, en fait, qu'il l'a mis dans ses romans,
littérature,
mais ouais. En faisant de sa famille des espèces de monstres de foire, et comme il a du succès d'un seul coup, qui gagne le Goncourt, ses parents vont enfin lire le livre et découvrir ce qu'il y a dessus. Donc il veut absolument éviter que ses parents, qui sont des immigrés algériens, un peu dans leur vision un petit peu, et puis les frères et les sœurs qui sont ne découvrent la façon dont il les a transformés en soit en obsédés sexuels, soit en personnage un peu foutraque, et je trouve qu'il y avait vraiment pas mal de choses intéressantes donc il y a des choses intéressantes dans l'humour français, mais c'est vrai que ça reste quand même un petit peu c'est souvent des exceptions, il y a un ou deux films qui font rire. Après il y a des tentatives, il y a des choses, le film Bonne Conduite qui était sorti cette année avec mais qui était un peu bancal,
plus dubitatif par rapport à ça,
plus bancal, mais il y a des bonnes choses dedans
entre... en fait je trouve, bon, puisque t'en parles, mais je trouve qu'il a essayé de faire ce que Tarantino a raté avec Death Proof, donc le film de serial killer en bagnole.
Ouais.
Et je trouve qu'ils n'ont pas non plus totalement réussi leur coup ici, mais on en reviendra dans un autre podcast.
Ouais.
Au lieu de dire dans les podcasts dans lesquels on te retrouve, mon cher Richard, j'ai décidé de signaler les podcasts où on ne te retrouve pas. Donc, on ne te retrouve pas dans Les Couilles sur la Table.
Pour l'instant.
Pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on ne te
justement,
retrouve
avec
pas...
Justement, avec l'argent d'Anarland, on voudrait les racheter. Donc, c'est...
Ok.
Avec la podcast monnaie...
Tout est possible finalement maintenant. On ne te retrouve pas dans On de la traconte. J'espère que tu ne seras jamais dans On de la traconte. Parce que là, ce serait quand même malheureux. Chez Laurent Gérard, on ne t'entend intimide pas. Intimide pas encore, Laurent Gérard.
Non, il a une injonction judiciaire pour ne pas le faire.
Ok. Dans Code Source, ça c'est le podcast quotidien du Parisien. Mmh. Qu'on ne t'entend pas non plus. Y en a plein d'autres, mais je vous conseille surtout ceux où on entend bien entendu Richard, c'est-à-dire Nanarland et Shark Parade, mais vous les connaissez forcément. Merci beaucoup.
Merci Nico, c'était un plaisir de parler.
J'étais ravi.
de parler de Father Ted, qui est vraiment une série à découvrir pour ceux qui la connaissent pas, et une plongée dans voilà. un bol d'absurdie complète, avec vraiment des personnages attachants. Parce que c'est aussi ça qu'on n'a pas dit, c'est que les personnages sont vraiment très très attachants. C'est-à-dire qu'on a vraiment... C'est à la fois c'est des cas sociaux, c'est enfin, des bras cassés, mais on a tellement envie d'être leurs amis, parce que c'est... ils suivent le pathétique, mais ils sont adorables.
Ben voilà, ben c'est le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas,
et ben merci.
On espère, les auditeurs, que ça vous donnera envie et que vous ferez tout pour voir cette série. À bientôt Richard, merci beaucoup.
À bientôt Nico, merci, ça fait un plaisir.
Father Hackett's got very fond of that brick. It's a great old pet for him. He doesn't have to feed it or clean it or take it to the vet. Suits him down to the ground.
I love my brick.
Ah, that's nice.
Maybe we're seeing another side of Father Jack, a more caring, considerate...
Et voilà, c'est ici que se termine le deuxième épisode de votre podcast 10 séries, le podcast qui revient sur les séries qui ont cartonné mais qui ont été un peu oubliées. Et on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode, j'espère plus rapidement que celui-ci, parce que voilà, j'ai envie d'avoir vos retours également. Et puis sachez qu'un nouveau projet de podcast se lance. Je pense que ça va être la première fois que ça va être créé, dans le monde du podcast. Donc soyez à l'écoute, soyez attentifs, soit au compte 10 séries, soit à mon compte perso, Nino0610 sur X, ou sur les autres, Treat ou Blue Sky, enfin voilà. Il y aura des nouveautés dans quelques jours, donc soyez attentifs. Je pense que ça vaudra son pesant de cacahuètes. Je vous dis à bientôt, ciao ciao. Sing it.